Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Non, vous aurez préféré que je dise bonjour mes sœurs. Et les frères après. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes enfants de Dieu et je vous porte dans mon cœur. Je porte aussi votre serviteur, ma femme et moi, dans la prière. Puis je vais faire une petite confession tout à fait confession. Intime. Vous savez pourquoi je suis content ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 60 ans où je suis venu prêcher à Saint-Étienne-du-Rouvray. 60 ans ! Et Jésus-Christ est toujours le même. Mais l'Église a changé, alléluia ! Elle a grandi et elle grandira encore. Pardon ? Vous en êtes sûr ? Quoique nous vivons dans une période assez difficile, vous le savez, frères et sœurs, et je voudrais partager avec vous deux textes. L'un dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc, et l'autre dans l'Ancien Testament, second livre des rois. J'avais pensé parler sur un sujet, puis cette nuit à 3 heures du matin, parce que le Seigneur est toujours... toujours les photos, m'a montré qu'il fallait dire autre chose. Et je rends grâce à Dieu pour la pensée que le frère a exprimée tout à l'heure. Et je rends grâce à Dieu pour les chants que nous avons entendus, et particulièrement par ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais son dent... Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Luc chapitre 21, parole de Jésus, verset 25. Jésus parle à son peuple et particulièrement à ses serviteurs, ses apôtres. Et voici ce qu'il dit. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ça, c'est pour le ciel. Sur la terre, c'est pour nous. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur ou mourront de peur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est alors qu'on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Verset 31, si vous voulez. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et si vous êtes d'accord avec ce que dit la Bible, nous pouvons dire, mes frères et sœurs, il y a une parole de Jésus que je voudrais laisser sur votre cœur et qui est conforme à ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus a dit que sur la terre, il y a un moment où les hommes ne sauront que faire. Et aujourd'hui, dans notre pays, mais aussi dans le monde entier, les hommes ne savent que faire. Vous avez remarqué que dans les messages d'information, on a le vrai et le faux. Tel professeur affirme, tel autre professeur confirme, tel autre déforme. Si bien qu'il y a quelque chose qui s'installe dans le monde, c'est la peur. Vous ne trouvez pas ? La crainte. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage. Qui, ce matin, peut dire « Je n'ai jamais eu peur de ma vie » ? Que celui ou celle qui peut dire « Que jamais je n'ai eu peur de ma vie » ? D'accord ? Lève la main, non ? Maintenant, deuxième question. Qui peut dire que depuis qu'il a été sur la terre, il a eu une fois peur dans sa vie ? Levez la main. Eh bien, mes chers amis, la moitié d'entre nous, pour ne pas dire les trois quarts, n'ont pas levé la main. C'est la preuve que vous avez eu peur de le faire. Merci. Non, la peur, elle nous habite, mes frères et sœurs. Et il faut avoir la vérité pour ceinture et dire, oui, c'est vrai, quand j'ai peur, j'ai peur. Et nous vivons aujourd'hui dans une génération qui a peur. Car dans le fond, nous vivons enfermés. Et il y a un mot qui est apparu, je ne l'ai pas retrouvé dans le Robert, c'est le mot « confiné ». Dépassé, emprisonné, emmuré, masqué. Eh bien, que Dieu nous démasque ce matin. C'est ce que je lui demande. Car voyez-vous, ça nous fait vivre à l'opposé de ce que Dieu voulait qu'on vive. Il parle de nous en disant « ton prochain ». Et maintenant, on nous enseigne de dire non plus ton prochain, mais ton lointain. Prends tes distances, pas vrai? L'Écriture nous dit, parle avec vérité. Et maintenant, on parle avec un masque devant le nez. Parle dans la liberté, maintenant on vit confiné. Oui, nous vivons, frères et sœurs, tout le contraire de ce que Dieu, dans sa grâce, a voulu pour chacun d'entre nous. Et tous ces gestes-là, bon, ils ont raison, c'est sûr, mais nous vivons dans un monde qui a peur. Et la peur, frères et sœurs, la peur, elle est un piège parce qu'elle est une mauvaise, bravo, mauvaise, voilà, nous sommes d'accord. Et vous savez, ces conseils ne sont pas bons à la peur parce que la peur nous trompe. D'ailleurs, le français nous aide, ne disons-nous pas trompeur. La peur nous fausse. Le français nous dit que le mot « torpeur », la peur nous tord, nous trompe, nous ment. Mais, dans certains moments, elle nous protège. Alors, je voudrais attirer votre attention, frères et sœurs, sur cette parole de l'Écriture que nous avons lue ce matin. Nous ne savons que faire. Et quand nous ne savons qu'à faire, nous poserons des questions en nous disant « mais quand est-ce qu'on sortira ?» Et des fois, les questions n'ayant pas de réponse nous amènent à murmurer. Regardez, nous sommes aujourd'hui appelés par nos gouvernements dans le monde entier à vivre dans nos quatre murs. Et moi, je plains tous ceux qui sont dans les immeubles, dans les petits appartements, dans les quatre murs. Faites une expérience. Dites-moi, prononcez-moi le mot « mur ». Et quand on vit dans les quatre murs, on le prononce quatre fois. Vous allez le prononcer avec moi, vous allez voir ce que ça fait. Mur, 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 murmurer. Le mur nous enferme et nous fait murmurer. Or, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour nous libérer, pour nous transformer, pour faire de nous des êtres parfaitement heureux comme nos frères et sœurs ont chanté. Oui, je vous disais tout à l'heure, on est dans un monde à l'opposé. On vit avec des lointains, on vit en se cachant, on vit en se masquant. Et puis même aujourd'hui, on vit dans le couvre-feu. Alors que le Seigneur nous a dit que la foi éteindra les traits enflammés du malin. Nous ne sommes pas appelés à nous couvrir, nous sommes appelés à éteindre le feu. Et cela, Jésus va nous donner l'exemple de ce que nous pouvons faire les uns et les autres. Oui, frères et sœurs, nous allons pouvoir nous en sortir vainqueurs, car le Christ a dit, quand vous verrez ces choses, non pas il a dit, ayez pas peur, ou ayez peur, il n'a pas dit ça, quand vous verrez ces choses, redressez-vous. Regardez, écoutez, et voyez le royaume de Dieu. Voilà l'espérance qui est en train de se réaliser pour chacun d'entre nous ce matin, et qui nous donne la victoire de dire, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Si vous prenez la Bible, frères et sœurs, vous apercevrez qu'il y a eu beaucoup de cas dans la Bible où les croyants ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Tenez, quand Dieu a appelé Abraham, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, Dieu appelle Abraham, et Abraham sortit sans savoir où il allait, mais s'appuyant sur le Seigneur. Si nous lisons le roi Josaphat, qui un jour s'est trouvé entouré d'ennemis et qui ont encerclé son peuple, il a fait cette prière, il dit, « Seigneur, devant cette multitude nombreuse, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Les hommes ne sauront que faire. Et peut-être que ce matin, mon frère ou ma sœur, tu te trouves dans une situation où tu t'es posé et tu te poses la question, que vais-je faire? Comment vais-je faire? Et pour me faire comprendre, je vais prendre une petite histoire, si vous le voulez bien, de l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, ça s'est passé du temps du ministère d'Élisée. Dans une période un peu étonnante, 2 Rois 6, en pleine expansion, nous avons un système croyant en pleine expansion. Vous savez, dans 2 Rois 6, c'est du temps du ministère d'Élisée. Il y avait des miracles, parce que Élisée avait reçu une double portion de l'esprit d'Élie, d'un homme qui était animé de cette soif de l'esprit, comme nous ce matin. Cette soif de l'esprit, car Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. D'accord ? Ils étaient assoiffés. Et puis, du temps d'Élisée, il y avait un temps de vie spirituelle énorme. Savez-vous que ce que disaient les croyants à l'époque, les fils des prophètes, ils disaient dans 2 Rois chapitre 6, ils disaient à Élisée, « Oh Élisée, notre salle, notre église, elle est trop petite. » C'est bien ça, hein ? « Nous voulons voir plus grand et plus grand encore. » Bien. Élisée a dit, « D'accord, allez, on va au chantier. Allez, ils sont bons au chantier. » Pour agrandir. Et vous n'avez pas remarqué que dès que Élisée et le peuple de Dieu ont voulu que l'œuvre de Dieu grandisse, ils ont eu 2 difficultés qui leur ont tombé dessus. Tout d'abord, un de ceux qui était là en train de construire a perdu sa hache. Une attaque sur les outils. Mes frères et sœurs, une église qui veut progresser a toujours une attaque pour essayer de le désarmer. La deuxième chose, c'est que le roi de Syrie, d'où était sorti un certain monsieur Naaman, le roi de Syrie s'est saisi de ce moment-là pour déclarer la guerre. Et frères et sœurs, dans le monde aujourd'hui, il y a un esprit qui est plus grand encore que le roi de Syrie, c'est l'esprit du mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien maintenant, on va le lire, regardez. Verset 14 du chapitre 6, de Rois. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et y sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Que pouvons-nous faire ?» Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée donc pria, il pria l'Éternel et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Et si c'est bien, on peut dire, oui mes frères et sœurs, quand un monde dans lequel nous sommes, qui est à l'opposé de ce que nous voudrions, je ne vais pas répéter, on l'a dit tout à l'heure, il y a 4 choses à faire. Tout d'abord, à ne pas nier le problème, nous sommes en pleine difficulté. Deuxièmement, quel est le remède pour sortir de la peur, de la crainte, du doute, de la souffrance? Eh bien, la première chose à faire, lorsqu'on en est conscient, c'est de nous poser la question « Qui est le plus fort ?» Alors, je vais vous poser la question, vous allez pouvoir répondre si vous voulez. Et même si vous êtes chez vous en train de regarder sur votre ordinateur notre culte, vous pouvez répondre même chez vous. D'accord ? On y va ? Mes frères et sœurs, voici la question numéro 1. Qui est le plus grand ? Le Dieu vivant ou le virus ? Pardon ? Le Dieu vivant. Très bien. Alors là, c'est un point. Deuxième question. Qui a le plus de pouvoir ? Le Seigneur, Jésus ou le virus ? Le Seigneur Jésus, pourquoi ? C'est écrit, tout pouvoir m'a été donné. Vous le croyez ? Bon, alors, le plus grand que le virus, c'est Dieu. Et ce Dieu, c'est notre Dieu, il est quoi ? Il est notre Père. Deuxièmement, celui qui a le plus de puissance, ce n'est pas le virus, c'est bien le Seigneur Jésus. Troisième question, qu'est-ce que nous devons craindre le plus ? Le virus ou Dieu ? Bravo ! Qu'est-ce que nous sommes venus faire alors ? Et puis, qu'est-ce qui peut nous triompher du virus ? Très bien, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher par Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ces quatre réponses ? Est-ce que vous croyez ces quatre réponses ? Je ne le vois pas, mais derrière votre masque, souriez et dites « Alléluia !» Alors regardons ce que Élisée va faire. Car mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose que vous avez compris. Il n'y a pas de vaccin anti-porc. Qu'on ait 75 ans, ou 80 ans, ou 18 ans, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de gélule anti-peur, il n'y a pas de pilule anti-peur, mais il y a un vieux livre anti-peur, et ce livre, c'est la parole de Dieu. Alors, merci, on va ouvrir ce vieux livre, parce que quand Élisée a vu ce jeune venir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Nous ne savons que faire. La première chose, il lui a adressé la parole. La première chose, mes frères et sœurs, dans ce monde qui a peur et qui tremble, et c'est juste, c'est vrai qu'il y a un vrai danger, attention, eh bien c'est d'ouvrir la parole. C'est ce que vous avez fait et ce que nous avons fait ensemble. Et alors ce qui me frappe, c'est que lorsque Élisée a ouvert la parole, quels sont les premiers mots qu'il a prononcés ? Regardez. Ah mon Seigneur, que ferons-nous ? Élisée répondit, ne crains point. Frères et sœurs, ces trois mots, c'est les premiers mots de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. La loi de Dieu dit, tu ne feras pas. La grâce de Dieu dit, ne crains pas, crois seulement. Et chaque fois que, dans un monde difficile, tu ouvres la parole de Dieu, tu découvres cette vérité, car tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament est rempli de ces mots, « Ne crains pas ». Et je voudrais que vous quittiez le culte tout à l'heure en disant, « Je ne crains pas, parce qu'il vit !» Parce qu'il vit. Et alors ? Qu'est-ce qui va se passer ? Très bien. Et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'y mets ? Pour combien de temps ? Je sais qu'il vit. C'est normal, il y a un petit décalage. La parole de Dieu, lorsqu'elle est ouverte, jaillit en nous ces trois mots, n'aie pas peur, ne crains pas. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, et que Dieu a dit, mais où tu ? Ils étaient cachés derrière leur masque. On a entendu ta voix, et on a eu peur. Mais les premiers mots de l'évangile, c'est, n'ayez pas peur, Et cela, frères et sœurs, nous amène à découvrir quelque chose de la grâce de Dieu. Il y a un pécheur, un pauvre type, qui a, comment dirais-je, échoué. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et quand il voit ce que Jésus fait, il dit, « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et quels sont les mots que Jésus a prononcés ?« Simon, ne crains point. Désormais, tu seras noyé. Tu seras pécheur à la surface. Ne crains point. » Et c'est aussi vrai quand on voit que Jésus, dans la barque, à un autre endroit, est en train de dormir. Il y a la tempête. Dans un autre endroit, il marche sur les eaux. Il y a la tempête. Et chaque fois dans la tempête, il dira « Ne crains pas ». C'est vrai ou pas? Bien sûr. Si je lis ma Bible, je m'aperçois que même quand le naufrage a existé, c'est arrivé à Paul. Vous savez, ils ont coulé. Mais Dieu avait dit avant à Paul, le navire, il est fichu. Mais toi et les tiens et ceux qui sont là, ne crains pas. Jésus a dit aussi, ne crains pas, petit troupeau, car je t'envoie comme un lion au milieu des agneaux. Est-ce que je sais ça, la Bible ? La Bible dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce qu'un loup ? Le loup, c'est cette puissance de mort qui peut nous dévorer tous. Et l'agneau, c'est notre nouvelle nature. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et le Seigneur dira, ne crains pas, petit troupeau. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et pourtant, mes frères et sœurs, vous en avez passé des loups depuis que vous êtes avec lui, le Seigneur. Et pourtant, vous êtes là ce matin parce que par la grâce de Dieu, vous avez vaincu le loup. Par la grâce de Dieu, vous avez résisté à Satan et il a fui loin de vous. Oui, je crois que c'est vraiment les mots que nous trouvons dans la Bible. Ne crains pas. Un jour, l'apôtre Paul se trouve à Corinthe et il y a toute une opposition. Les Juifs se lèvent, le gouvernement se lève, les juges se lèvent parce qu'ils voulaient faire opposition au message de Paul. Et Paul a entendu dans la nuit, « Paul, ne crains pas. » Lorsque vous lisez un tout petit peu plus loin et que vous prenez les pages de l'Évangile, vous y voyez un papa qui vient d'apprendre la mort de sa fille. Il n'y a rien de pire que ce qui est arrivé à Jaïrus. Et les premiers mots de Jésus, ne crains point. Ma sœur, mon frère, quelles que soient les nouvelles que tu reçois, quelle que soit cette lettre recommandée qui montre que tu risques d'être au chômage, quel que soit ce résultat d'un laboratoire qui souligne qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, quelle que soit la réaction de tes enfants et de tes opposants, quelle que soit l'ambiance dans laquelle tu vis, il m'a chargé de te dire, ne crains point. Pourquoi ? Ah, frères et sœurs, dès qu'on ouvre le Nouveau Testament, on en trouve un vieux monsieur. Il s'appelle Zacharie. Il est troublé parce qu'il voit. C'est pas un culte comme d'habitude. Alors des fois, nous, les anciens, pas vous, vous êtes jeunes, mais nous, les anciens, on est troublé quand on voit. Il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Bon, écoutez. Le brave Zacharie est un homme âgé, hein. Il est dans le temple en train de faire son service et voilà un événement qui n'était pas prévu dans la liturgie. Il a peur. C'est nouveau, ça, c'est pas. C'est un ange. Et l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta femme va bientôt avoir un fils. S'y attendez à tous, on va ça. Ne crains point. Que ce soit des pauvres bergers en pleine nuit en train de garder les brebis, quel est le mot qu'ils entendent ? Pour vous, ne craignez point. mais dans la ville de Bethléem, il vous est né le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Ne crains point. Quand il est ressuscité, Jésus, et qu'il voit ces femmes qui pleurent devant le tombeau, que dit-il ? Ne crains point. J'étais mort et je suis vivant. Prenez l'Apocalypse, Apocalypse 1:17, et l'apôtre Jean qui connaît bien Jésus, et un jour, dans le ciel, se trouve un petit peu comme paralysé par la peur, et Jésus ressuscité lui dira « Ne crains pas, Jean !» Et ce matin, celui qui est au milieu de nous, qui est le personnage le plus important, nous dit à tous « Ne crains pas !» Nous ne saurons que faire. Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas craindre, et de dire « Par ce qu'il vit, » Vous savez, il y a un vieux chant aussi des ailes de la foi qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient de toi. Les dangers à court, subtils, inconnus. Mais plus près il m'entoure, plus près je suis vers Jésus. » Et le cœur qu'on chante quatre fois, c'est « Non. » Allez-y les anciens. Vous voulez monter sur l'estrade et faire un cœur de l'amicale des anciens ? Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Pourquoi ? Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Encore !
Non, jamais tout seul.
Alléluia. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul avec moi. Je ne suis jamais. Et en regardant mon frère, ma sœur, tu n'es jamais. Voilà. Non, mais je ne suis pas venu pour vous faire rire, mais pour que nous réfléchissions à un besoin aujourd'hui. Dans un monde qui a peur, on ne craint pas, et ça va nous permettre de rendre témoignage. Parce que les gens vont dire, mais quelle est l'espérance que vous avez ? Et l'Écriture nous dit, soyez toujours prêts à répondre de l'espérance. Oui, je ne crains pas parce que je crois. Je crois que tu viens bientôt, Jésus. Oui, Seigneur, le dit dans sa parole, quand vous verrez ces choses, non pas cachez-vous, mais redressez-vous. Redressez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et l'autre parole que je voudrais dire en terminant, frères et sœurs, c'est que devant un monde qui a peur, il nous faut écouter la parole. Il faut ouvrir nos oreilles. Et dans le Nouveau Testament, combien de fois c'est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, bravo. Donc, Seigneur, ta parole me dit ce matin d'ouvrir mon oreille, non pas à France Info, mais d'ouvrir mes oreilles à ta parole. Et lorsque Élisée a apporté la parole à son serviteur, c'est pas arrêté là. Il a ajouté à la parole la prière. Il a dit, l'Éternel, ouvre les yeux de ce serviteur. Ma sœur, mon frère, ce matin nous pourrions faire la même prière. Dans un monde qui a peur, ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir. Non pas la terreur, mais nous voulons voir Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et il nous a dit, le Christ, il l'a dit, mais quand vous verrez ces choses, ne vous cachez pas, redressez-vous, votre délivrance approche. Les uns seront pris dans la gloire. Et ceux qui, malheureusement, ressembleront aux vierges folles qui n'ont pas de réserve. Mais ce matin, frères et sœurs, puisque nous sommes ici, prenons des réserves. Ne vous laissez pas appesantir, dit la parole de Dieu, par le manger, par le boire. Ne vous laissez pas accabler, mais veillez et priez. Pourquoi ? Afin que dans l'église, on dise, oh, c'est un homme de prière. Oh, c'est une femme de prière. Oh, le pasteur ici, oh, c'est un homme extraordinaire. Je dois se méfier des gens qui bouffent là, d'ailleurs. Non, frères et sœurs, ce qu'il est important de dire ce matin, ceci, c'est Seigneur, ouvre nos yeux ouvre nos yeux sur ta parole, ouvre nos yeux sur tes lois, ouvre nos yeux sur ta grâce. Seigneur, nous voulons te voir, toi et toi seul. Ouvre nos yeux, non pas sur ce monde qui a mal, mais sur ta grâce qui agit. Car ma grâce, dit Jésus, te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et c'est quand je suis faible que je suis... Vous connaissez tout. Oui, alors, non seulement Dieu va ouvrir mes oreilles, mais Dieu veut que j'ouvre la bouche. Il y a combien de temps que je n'ai plus ouvert la bouche pour parler à mon Dieu ? Il y a combien de temps que dans l'église, malgré toutes les réunions de prière qui me sollicitent, je viens sans ouvrir ma bouche ? Il y a combien de temps où, quand je m'enferme dans ma maison, je n'ouvre pas la bouche ? Oui, je prie en pensée, mais confesser de la bouche, prononcer le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, cela va nous amener à découvrir quelque chose. Quelle était la prière d'Élisée, simple ? Ouvre-lui les yeux. Et ce qui est formidable, c'est ceci. Je termine là-dessus. Le serviteur, je ne sais pas s'il était jeune ou plus âgé, le serviteur d'Élisée, quand il a entendu son ami Élisée prier, ouvre les yeux, mais il a dû se dire, monsieur, il ne me comprend pas, je les ai ouverts les yeux. Ah ben moi j'ai les yeux ouverts, hein, je ne suis pas comme d'aucun, j'ai vu des chars, j'ai vu des armées, j'ai vu des soldats, j'ai vu des épées, j'en ai vu partout. Oui, il avait raison, c'était vrai. Alors il a pu peut-être se trouver scandalé lorsque le pasteur dit « Ouvre, ouvre les yeux !»« Ah oui, Seigneur, Seigneur, bien sûr, j'ai ouvert les yeux, je sais !» Mais attendez, l'enfant de Dieu, il a une double vue. Vraiment, c'est cette double vue-là qui nous manque et que nous avons besoin de prier. Parce que c'est dans la prière que nos yeux s'ouvrent. Quand les apôtres ont été sur la montagne, frères et sœurs, sur la montagne de la Transfiguration, il nous a dit, se tenant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux me tenir éveillé par ta grâce. Et regardez ce qui est formidable. Moi, je trouve que Dieu est plein d'humour, ne trouvez pas ? Dieu aime sourire. Non, ça vous choque ? Dieu aime rire. Oh ! Votre grand âge vous fait virer à côté. Non, non, c'est écrit. Dieu sourit bien des moqueurs. Hein. Non, Dieu, dans sa grâce, aime que vous et moi, nous puissions découvrir cette grande vérité. Regardez bien. Il ouvre les yeux et le serviteur, qui avait vu les chevaux et les chars du roi d'Assyrie, a maintenant les autres regards sur les chevaux de feu qui avaient emmené il y a quelques semaines ou quelques mois Élie dans le ciel. Dieu a ouvert les yeux sur le ciel. Dieu a ouvert les yeux sur sa gloire. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu que la bénédiction était beaucoup plus grande que celle qu'il avait pu imaginer. Et je n'ai pas le temps, mais vous le lirez. Et ce qui est fantastique et ce qui me fait sourire, c'est que Dieu ouvre les yeux de celui qui prie et il ferme les yeux de l'ennemi qui n'y voit rien. Ah, vous me direz, oui, mais le plus beau, c'est la suite. Lisez le chapitre 6. Ouais. Et lorsque ils sont aveugles, ben, ils vont là où il ne faudrait pas aller. Et quand ils sont à l'opposé de ce qu'ils voulaient aller, les ennemis, Dieu, à ce moment-là, leur ouvre les yeux. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient leur défaite. Et Satan, mes frères et sœurs, il voit sa défaite. Et nous, nous voyons la victoire du Fils de Dieu. C'est tout à fait différent. Et c'est ce qui va faire de nous des gens parfaitement heureux. Il frappe de cécité l'incrédule et ouvre les yeux de celui qui écoute, qui prie, qui adore, que son Saint-Nom soit béni. Et mes frères et sœurs, la parole que je vous donne pour terminer, c'est dans Josué, où Josué dit au chapitre 3, verset 5, « Sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, l'Éternel va faire des prodiges sous vos yeux. » Le Dieu de Josué, il est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Non, mes frères et sœurs, soyez pas étonnés de ces turbulences. Car non seulement il y a les turbulences du monde, mais ces turbulences du monde agissent aussi dans l'Église. Enfin, moi, Saint-Étienne, je ne peux pas le dire, mais je sais dans mon assemblée. Et pourtant, il y a des milliers de gens. On est obligé de faire 6 cultes. Et pourtant, frères et sœurs, si vous saviez combien peu s'attendent à voir la gloire de Dieu ce matin, souvenez-vous que le pépin est arrivé à Élysée quand les ennemis ont entouré Israël. À quel moment? Alors là, c'est une question à 1 euro, même 2 euros. À quel moment l'ennemi est-il venu attaquer le peuple de Dieu? La nuit, oui. Oui, mais dans quelle période de temps? Oh, non, vous voulez aller manger? Allez, hop, j'y vais. Même je vais vous le dire. L'outil s'est démanché et l'ennemi est venu quand l'Église était dans des grands projets d'agrandissement. C'est pas vrai? Oui. Et dès qu'une Église a des projets pour avancer, pour agrandir, pour proclamer, immédiatement, Satan essaye d'enlever nos armes en nous faisant voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas juste. Et puis tout ce qui est bon après tout, c'est pas mauvais. Le confinement, on reste au culte, en chaussons ou pieds nus. Si on est fatigué, on bat et personne ne nous voit. On entend tout, on reçoit tout. Et c'est une attaque à la communion fraternelle. Mais ça met en évidence ceux qui marchent et ceux qui dorment. Or, l'Écriture nous dit, regardez, veillez, priez, redressez-vous et soyez prêts pour l'accueillir. Que Dieu soit béni. Amen. Courbons nos fronts. Ma sœur, mon frère, je ne te connais pas, mais moi je me connais. Si ce matin au culte, en terminant et en gardant cette parole, ne crains pas, tu puisses dire avec ce vieux chant, excuse-moi, qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. »
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site égliseciel-ouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nous.